chers auditeurs et chères auditrices, à Radio Créum, les voix de l'éthique. Bienvenue à Personne n'en parle. Cette émission accompagne la parution d'un dossier sur le féminisme dans le numéro d'automne 2008 de la revue du Créum, les ateliers de l'éthique. Le dossier s'intitule « Le féminisme n'intéresserait-il que les féministes? Is feminism just for feminists? » La revue Les ateliers de l'éthique est disponible en téléchargement gratuit sur le site web du Créum www.creum.umontréal.ca. Pour cette émission, j'ai posé quelques questions à des auteurs de ce dossier. Il s'agit de Alia Al-Saji, professeur au département de philosophie de l'Université McGill. Ryoa Chung, professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal. Marguerite Deslauriers, directrice du Centre de recherche et d'enseignement sur les femmes de McGill et professeure au département de philosophie de l'Université McGill. Et Monique Lanois, professeure au département de philosophie de l'Appalachian State University. Demandez à Monique Lanois comment est née l'idée de monter ce dossier sur le féminisme.
Alors, ça fait assez longtemps que justement les articles et aussi l'idée d'un dossier sur le féminisme et la philosophie, comment le féminisme interpelle la philosophie en particulier, nous est venu à l'idée, je dis nous, c'est Marguerite Deslauriers, Ryoa Chung et moi-même, en 2004, nous avons pensé qu'il serait intéressant d'avoir un après-midi comme ça dans le contexte du colloque de la Société de philosophie du Québec qui avait lieu à l'UQAM dans le temps. Et de regarder les divers enjeux que suscite le féminisme. Et surtout, j'étais de l'opinion que la philosophie, surtout la philosophie dans le contexte francophone, avait pas vraiment porté attention au féminisme, aux critiques des féminismes. C'est ma perspective surtout là, dont je parle, c'est que le féminisme au Québec est très engagé et a lieu sur d'autres terrains que le terrain philosophique. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose du côté anglophone, et je connais surtout, moi, les théories de la justice anglo-américaine qui vraiment ont répondu ou ont tenté de répondre aux critiques féministes. Alors, je trouvais qu'il serait intéressant, justement, de regarder, dans un contexte francophone, justement, qu'est-ce qui se passait en philosophie avec le féminisme. Et c'est là que nous avons eu l'idée de rassembler des auteurs et de justement regarder ces enjeux. Alors, ça a commencé comme ça, une journée qu'on a eue et qu'on a bien aimée. Tout le monde, je pense, les participants comme les conférencières ont bien apprécié cette journée-là. Et on s'est dit, ben pourquoi pas faire ou publier certains écrits. Alors, c'est là qu'a commencé l'idée du volume. Et en réfléchissant, on a décidé d'ajouter des perspectives, justement, qui n'avaient pas été approchées, ou des perspectives dont on n'avait pas parlé durant la journée. On voulait présenter de nouveaux travaux et de jeunes chercheurs aussi. Donc, on a des textes de personnes en fin de doc qui sont dans le dossier.
Demandez à Marguerite Deslauriers si la tenue d'une journée nationale d'action contre la violence faite aux femmes, le 6 décembre, était le signe d'une percée du discours féministe dans le discours public. Et qu'en est-il du féminisme dans les universités?
Je ne sais pas si on peut parler d'une percée. D'abord, comme à l'époque de l'événement au Polytechnique, il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas voir l'événement comme un événement politique, mais seulement comme l'action d'un individu fou, et qu'il n'y avait rien à dire politique au-dessus.
On disait que c'était un acte isolé.
Voilà. Et je crois qu'on continue de voir la violence contre les femmes comme les actes de certains hommes contre certaines femmes, et qu'on continue souvent de culpabiliser les femmes qui souffrent. Alors, je dirais oui, une percée dans le sens qu'on parle plus maintenant qu'avant de la violence contre les femmes. Mais je ne sais pas qu'à part ça, que beaucoup a changé. Monique Lannoy et moi, ce qu'on voulait souligner avec la collection, c'est justement qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de travaux féministes qui portent sur les sujets qui ne sont pas seulement les femmes ou le féminisme. Et que ça pourrait intéresser les gens qui travaillent dans les domaines qui ne sont pas le domaine du féminisme soi-même. Mais je crois que toujours le féminisme dans le milieu universitaire est un peu marginalisé, même si c'est plus accepté qu'avant.
J'ai demandé à Marguerite Deslauriers quelles sont ses impressions sur ce qui est arrivé le 6 décembre 1989.
Je pensais encore au 6 décembre et on a dit, c'était comme si les femmes, elles peuvent faire n'importe quoi si elles restent des femmes. des femmes qu'on peut reconnaître comme femmes. Alors, à l'époque, je me rappelle qu'on disait souvent, mais les femmes-là, les femmes qui sont mortes, qui étaient mortes, qu'elles n'étaient pas des féministes. Et ça, c'était très important pour quelques personnes de dire, comme si, s'ils étaient des féministes...
C'est mal.
Elles, oui, c'est mal, et qu'elles étaient coupables. Elles auraient été coupables, mais qu'elles étaient plus innocentes du fait qu'elles n'étaient pas des féministes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'était des vraies femmes. C'était des femmes qui faisaient plaisir aux hommes, qui aimaient beaucoup des hommes, qui ne rejetaient pas des hommes. Et alors, si elles voulaient être des ingénieurs en même temps qu'aimant les hommes, ça, c'est bien. Alors, ça me frappait beaucoup à ce moment-là, comme si elles étaient féministes, ben qu'est-ce qu'on fait? Ce qui était bizarre, c'est qu'un homme qui a meurtri les femmes, et après, on ne parlait pas de la violence contre les femmes, on ne parlait pas de si les hommes aimaient des femmes ou détestaient les femmes, on parlait des féministes, des femmes, et si des femmes et des féministes aimaient des hommes. Mais c'était des femmes qui étaient les victimes de la violence. Et ça, c'est la théorie féministe qui nous fait remarquer que c'est bizarre combien on parle des femmes et de la haine que les femmes ont pour les hommes, tandis que souvent, c'est les hommes qui perpétuent la violence contre les femmes.
J'ai demandé à Monique Lannoy comment penser la violence en tant que féministe.
La première manière d'appréhender la violence envers les femmes a été, pour revenir à l'idée de la deuxième vague, la violence sexuelle envers les femmes. Ensuite, le discours s'est multiplié et aussi on s'est aperçu qu'il y avait un harcèlement sur le milieu du travail. Alors, ce sont des violences qui sont physiques, qui sont marquées et c'est encore les violences auxquelles on pense lorsqu'on pense violence envers les femmes. Mais il faut penser aussi aux autres sortes, et voir les autres sortes de violences qui se perpétuent dans la société, au niveau, si on regarde les annonces, les affiches de mode, des annonces pour n'importe quoi, les autos et tout ça. On en a déjà parlé avant, mais ces images n'ont pas vraiment changé. Et ce sont des violences qui ne sont peut-être pas des agressions comme telles, mais qui marquent le corps des femmes. Et il faut voir aussi dans les discours comment on représente les femmes âgées, par exemple. Et il y a un certain mépris envers le corps des femmes, que si le corps d'une femme n'est pas jeune, très mince, d'une certaine élégance et look, qu'il y a un mépris, et ce mépris est une violence aussi. Alors, les dossiers repensent cette violence sur différents aspects. Le regard sur la femme musulmane, qui justement n'est pas une femme qu'on voit, qu'on pense un look européen. Aussi, penser la diversité sexuelle. Et penser les personnes que l'on appelle les personnes en perte d'autonomie ou dépendantes encore, on voit ici un mépris qui, ce mépris peut souvent se tourner en violence. Donc, le dossier, je crois, va aider les lecteurs et les lectrices à voir la violence comme quelque chose qui est plus que une violence physique. Et que dans nos interactions de tous les jours, ces enjeux sont présents. Mais il faut les voir. Il faut vraiment s'habituer à les percevoir. Alors, je crois que le dossier, sans pour autant faire appel à ce qui s'est passé le 6 décembre, va peut-être nous faire penser encore plus profondément qu'est-ce que ça veut dire la violence. Puis c'est une violence qu'on s'impose des fois aussi, justement comme la chirurgie esthétique, qui est une violence. Je veux dire, c'est des opérations, c'est des chirurgies, c'est des choses qui sont assez traumatiques, mais que l'on s'impose envers un idéal. Pourquoi? Alors, il faut questionner justement cet idéal et vouloir toujours ressembler à quelque chose. Donc, vouloir devenir comme tel modèle. Ça nous porte, je pense, lorsqu'on questionne justement pourquoi avoir cet idéal, un idéal en tête, où est la différence ici? Et je pense que les textes aussi nous aident à repenser la différence. C'est quoi la différence? Pourquoi on ne peut pas accepter la différence? Et la violence, souvent, c'est notre réaction. On peut avoir une réaction envers la différence, une réaction qui veut, en fait, éliminer cette différence. Donc, une réaction violente, si on veut, envers la différence. Et le féminisme a été confronté, justement, à comment réagir envers les différentes formes de femmes et les différents féminismes. Et je pense que c'est une question qui va toujours nous interpeller, une question que l'on doit penser. La différence, où on la met, comment la penser, la différence, que c'est quand même important. Et dans une société comme la nôtre, avec toutes sortes de différences, je pense que la différence devient une richesse. Et il faut vraiment apprécier la différence et non tenter de la supprimer. Puis une féministe, Susan Bordeaux, qui travaille justement sur le corps et la philosophie, remarque que les chirurgies esthétiques, au lieu d'avoir une diminution, c'est une augmentation chez les femmes et chez les hommes aussi. Et les problèmes d'anorexie aussi. Donc, justement, cette pensée, si on veut, vers le modèle du corps idéal, affecte les hommes autant que les femmes.
J'ai demandé à Alia Al-Saji qu'est-ce que le constructivisme social. Est-ce que c'est une idée qui trouve son origine dans les théories féministes?
Sur le constructivisme social, donc je pense que oui, les féministes avaient une grosse part dans ça. C'est pas une théorie qui a commencé avec le féminisme, justement, mais ça s'était pris. Et ça, c'était commencé par les psychologues. Et donc, c'était pris. Et puis, ça s'avérait très utile parce que, justement, on pourrait, dans ce cas, faire l'argument que ce qu'on voit comme différence dans les gens et même dans les corps des gens ne sont pas des différences naturelles, donc pas innées. Que ça développe avec l'éducation, avec la socialisation, avec les habitudes qu'on a, et que c'est comme ça qu'on devient qui on est. Donc, Simone de Beauvoir qui a dit on n'est pas né femme, mais on le devient. Mais c'est pas dans un sens positif. C'est toujours l'impression que c'est quelque chose de bien. Mais non, c'est dans un sens où on le devient parce qu'on le devient historiquement, socialement. Mais ça veut dire qu'aussi qu'on peut changer d'une certaine façon ce que c'est la fémininité et qu'on peut changer ce que ça veut dire une femme. Si on se prend conscience des processus qui sont là dans la construction. Donc, évidemment, il y a des limites à ça, mais c'est là où je pense que il y a des écoles de féminisme qui veulent s'adresser à ça. Donc, il y a des féministes qui veulent s'adresser plutôt à des cadres, je dirais, de lois, des droits. Oui, exactement. Mais il y en a d'autres qui veulent aussi s'adresser à ces socialisations concrètes qui se font. Mais, je veux dire, les féministes, je pense que normalement, on est d'accord qu'il faut s'adresser aux deux. Donc, ce n'est pas juste sur un niveau institutionnel et ce n'est pas juste sur un niveau d'éducation ou des pratiques. Pour donner juste un exemple, il y a des féministes qui donnent l'exemple de même les mouvements des femmes, la mobilité corporelle, l'espace qu'on prend quand on est assis ou quand on fait quelque chose. Par exemple, les femmes prennent beaucoup moins d'espace, sont beaucoup plus restreintes dans leurs mouvements que les hommes, proportionnellement à l'espace qu'elles pourraient prendre. Mm-hmm. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait penser que c'est comme un...
inné.
On pourrait penser, voilà, dans le passé, quand on avait des théories psychologiques de ça, on pensait que c'était inné. On essayait de donner des arguments c'est physiologique de ça. Mais c'était montré que c'est... au fur et à mesure de la socialisation des filles, qu'elles prennent l'habitude de prendre moins d'espace, justement. Mais pas moins d'espace physique, aussi moins d'espace dans l'espace public. Donc, mm-hmm. de parler moins, de plutôt donner le parole aux autres, mm-hmm. d'être moins assertif, que ça a un effet, justement, sur ce que les femmes... pense qu'elle peut faire. Donc, c'est pas simplement un effet du genre... C'est pas simplement des contraintes extérieures, mais c'est des contraintes sociales qui sont intériorisées et qui ont un effet sur ce que les femmes ont comme projet, ce qu'elles pensent qu'elles puissent faire. Donc, est-ce qu'elles puissent justement... s'engager dans un certain sport? On voit ça plus aujourd'hui que les filles s'engagent dans ça, mais il y a toujours une certaine hésitation pour les femmes parce qu'il y a cette intériorisation d'une certaine image sociale d'elles qu'elles ne sont pas capables. Donc, c'est des sortes de contraintes intériorisées qui ont un effet néfaste sur les capacités, je dirais. Et donc, on pourrait de ce côté-là parler pas d'une nature, mais d'une naturalisation.
J'ai demandé à Alia Al-Saji ce qu'elle pensait de l'organisme Unifam qui siège à l'ONU et qui mène une campagne internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes.
Donc pour l'UNIFEM, justement, ils essayent des fois, ils ont une approche de haut en bas. Donc, ils ont certaines choses sur le terrain qui sont bonnes, mais aussi certaines choses qui vont à l'encontre des intérêts des féministes qui sont sur le terrain. Parce que, par exemple, les féministes qui sont sur le terrain ont d'autres problème pour eux. Par exemple, il y a aussi une perception d'une femme que c'est un outil de l'Occident, que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, que c'est pas quelque chose qui est dans la culture locale. Et les féministes qui sont sur le terrain, ils essaient justement d'argumenter que le féminisme, que les avancées qu'ils veulent, ou les changements de droits, mais aussi de faits, des changements de comportement, sont quelque chose qui sont un développement de la culture locale ou de la religion locale. Donc, ils essayent d'argumenter pour, par exemple, un féminisme islamique ou un féminisme qui est justement concret. Et le fait qu'il y a cet autre organisme, des fois, qui vient avec de l'argent, justement, parce qu'ils ont, c'est lié à l'argent de développement économique pour les pays. Souvent, il y a des conditions sur cette...
Les
programmes, ils ont des programmes. Et le fait qu'ils viennent avec ces programmes-là, ça met en tension et ça rend des fois les tâches des féministes sur le terrain plus difficiles. Parce que le féminisme, dans ce cas, est vu comme justement quelque chose d'occidental et pas quelque chose qui pourrait être un mouvement des femmes, disons musulmanes ou des femmes indonésiennes ou des femmes. Mmh. Donc, ça crée ce genre de problème. Et puis, une femme, des fois, dans les choses qu'il... Donc, les choses, il prend certains... Des fois, il prend trop dans les stéréotypes des autres cultures. Donc, les choses qu'il s'attache à certains programmes plus que d'autres. Par exemple, des programmes contre ce qu'on appelle la mutilation génitale.
Oui.
Donc, c'est pas que ça n'a pas lieu, c'est pas que c'est pas un problème, mais c'est que la médiatisation que ça, ça crée plus de problèmes des fois pour les... Parce qu'il y a une réaction locale qui disent non, on ne veut pas ces changements qui viennent de l'extérieur. Donc, il y a... Et ça rentre dans les stéréotypes et puis ça crée d'autres problèmes. Donc, il y a des fois une instrumentalisation des causes des femmes qui peut être problématique quand c'est pris par des institutions, surtout à l'extérieur de société, je pense. Mais qui est une approche de haut en bas au lieu de vraiment voir ce que les femmes qui travaillent sur le terrain veulent faire.
J'ai demandé à Alias Sagi si elle croyait que le problème de la violence envers les femmes est un problème global qui rassemble les femmes de toutes les cultures.
Il faut faire attention quand des fois on compartimentalise de trop. Donc on essaye de... Il y a certaines violences qui sont définies comme violences contre les femmes et d'autres non. Donc, par exemple, justement, pour Unifam, ils ont arrivé à, dans l'ONU, ils ont arrivé à passer une résolution contre la violence sexuelle. Donc, la résolution est contre la violence sexuelle contre les femmes dans les cas de conflit. Mais c'est intéressant qu'ils parlent juste de violence sexuelle. Donc, c'est un grave problème, mais ça laisse certains pays être d'accord avec cette résolution qu'eux, ils ne pourraient pas être d'accord si on disait juste « violence contre les femmes ouais. ». Parce qu'un bombardement, ça c'est aussi la violence contre les femmes. Ouais. Le bombardement d'Afghanistan, ça a tué pas mal de femmes. Donc, pourquoi est-ce qu'on essaie juste de parler des choses qui sont locales et puis voir que cette violence sexuelle, il est interprété comme étant juste le problème des cultures qui sont en conflit dans ce cas, ou des problèmes intérieurs à des pays, et pas un problème qui peut aussi nous impliquer, nous, étant donné, par exemple, l'Occident ou les États-Unis dans ce cas, etc. Donc, tu vois que certains gens puissent signer sur ça, qu'ils puissent être d'accord, comme Condoleezza Rice, pour ça, mais dans le cas où on voudrait dire plutôt, oui, on voudrait condamner toute violence contre les femmes, ils ne pourraient pas être d'accord parce qu'ils sont impliqués aussi. Donc, il y a ça un peu qui est des fois en jeu, comment on définit justement la violence contre les femmes.
des fois, pour, justement pour parler de violence structurelle, par exemple, ce n'est pas toujours évident ce qui constitue ça chez nous, chez les autres. Donc, pour ça, il faut vraiment pouvoir comprendre comment les gens... je veux dire, se construisent leur image d'eux-mêmes, comment ils vivent leur... quelle façon de vivre ils en ont et qu'est-ce qui constitue une violence dans ce cas, qu'est-ce qui n'est pas exactement ça, mais c'est... on le voit comme violence parce que pour nous, c'est pas la même chose. Je veux pas dire violence, le mot violence là, c'est un peu difficile parce que pour moi, c'est plus évident de voir la violence. Mais des fois, pour voir oppression, là, c'est pas aussi clair. Parce que l'oppression peut avoir plusieurs formes. Et des fois, on pense que quelque chose est oppression, alors que les autres féministes vont nous dire non, ce n'est pas. Et des fois, ce que chez nous est normal peut être vu comme oppression. Par exemple, une chirurgie plastique, ça peut être vu comme oppression.
Demander à Ryoa Chung de réagir à la position de Aya Al-Saji sur les rapports entre femmes de différentes cultures.
Si j'ai bien compris son propos, et puis je ne voudrais pas trahir tout de même l'intelligence de ses remarques, mais en bout de ligne, à mon sens, la question à laquelle elle débouche, c'est la question de savoir si une perspective féministe peut souscrire à une conception universaliste de la moralité, donc à une certaine forme d'universalisme moral, étant donné la reconnaissance de la diversité culturelle, puis étant donné la reconnaissance ou plutôt le rejet d'une conception trop paternaliste ou trop impérialiste, d'une certaine forme de féminisme occidental qui procéderait justement par une série d'initiatives top-down, un peu comme elle semblait le dénoncer à l'égard notamment des initiatives telles que Unifem, initiée par l'ONU, dont la porte-parole est Nicole Kidman, etc. Et puis, face à cette question-là, en fait, c'est une question terriblement importante, notamment parce qu'elle va au cœur d'un des enjeux philosophiques, un des enjeux les plus importants, une des questions les plus fondamentales dans le domaine de l'éthique des relations internationales. Et le domaine de l'éthique des relations internationales consiste justement à essayer de penser les principes de justice internationale dans le contexte d'un monde de plus en plus globalisé, tiennent aussi bien en compte l'universalisme de ce qu'on appelle les droits fondamentaux des individus, pour ne pas dire les droits de l'homme, et qui doit aussi pouvoir concilier une certaine conception universaliste des principes de justice internationale avec le respect, évidemment, de la diversité culturelle. Et en fait, le phénomène de la diversité culturelle est, en termes plus conceptuels, plus théoriques, ce qu'on appelle le phénomène du pluralisme raisonnable. Et puis, la notion de pluralisme raisonnable, c'était une notion qui a été justement mise de l'avant par un philosophe qui s'appelle John Rawls et qui a vraiment mobilisé les philosophes politiques contemporains sur le phénomène social suivant, qui est que si on comprend le libre exercice de la raison humaine comme une chose à la fois, comme une chose souhaitable, il va falloir aussi admettre que le libre exercice de la raison humaine donne lieu à des désaccords raisonnables, des désaccords qui peuvent être très importants, mais qui demeurent légitimes au sujet de valeurs fondamentales. De sorte qu'à partir du moment où on reconnaît le fait du pluralisme raisonnable, non seulement comme une caractéristique empirique de l'ordre international, qui est encore plus exacerbée dans l'ordre international qu'à l'échelle des sociétés domestiques. Si on reconnaît le pluralisme raisonnable comme une caractéristique empirique qui est juste, qui dit quelque chose de vrai, de très vrai du monde tel qu'il est, mais qu'en plus on pense que la reconnaissance du pluralisme raisonnable est quelque chose de souhaitable aussi, d'un point de vue moral, qu'il faut reconnaître et respecter la diversité culturelle, ça amène les positions féministes qui se veulent cosmopolites, c'est-à-dire qui se veulent quand même universalistes, à devoir concilier les deux facettes de la chose. Et donc, les féministes contemporaines, tels que des gens comme Martha Nussbaum, des gens comme Susan Okin, des gens comme Alison Yagert, ont posé la question suivante: comment on fait pour soutenir une position féministe en tenant compte justement du pluralisme raisonnable? Et comment peut-on défendre une conception universaliste féministe sans verser dans une conception impérialiste, paternaliste d'un féministe occidental? Et pour ma part, dans l'état actuel de mes recherches, je ne dis pas que ça va toujours, toujours être le cas, mais pour le moment, je pense que, en fait, une perspective féministe libérale qui se veut universaliste, qui se veut franchement cosmopolite, peut tenir la route, même en dépit de toutes les critiques tout à fait percutantes qu'on peut adresser contre, par exemple, l'impression que c'est un mouvement féministe top-down, etc., que c'est une imposition culturelle de l'universalisme moral, bon, etc. Je pense néanmoins que dans l'ordre actuel des choses, si on veut faire avancer quelque chose dans le domaine de l'éthique des relations internationales au nom des droits fondamentaux des femmes, que le langage des droits qui caractérise qu'on appelle une position libérale en relations internationales, que le langage des droits fondamentaux, que le fait de miser sur la réforme des institutions internationales telles qu'on les connaît, donc de réformer, par exemple, le potentiel de l'ONU, du système onusien, et donc les initiatives telles que UNIFEM, etc., peuvent effectivement quand même avoir réellement une incidence concrète. Je pense qu'à défaut d'autre chose, pour le moment, le langage des droits est un véhicule institutionnel qui peut être réellement très progressiste. Et de ce point de vue-là, je pense que jusqu'à un certain point, même si on reconnaît l'importance de la diversité culturelle, on peut quand même s'entendre par une sorte de consensus, par recoupement, sur un noyau dur de droits fondamentaux qui serait universellement valable et dont il s'agit, d'un point de vue féministe, de faire en sorte que les droits vraiment fondamentaux à la sécurité, à la subsistance, soient reconnus pour les femmes. Et ça, je pense qu'on peut quand même faire ce travail-là et faire un travail très important, en fait, à défaut d'autre chose, par les moyens des institutions libérales internationales.
Ben, je dirais peut-être le féminisme, en tout cas pour moi, c'est avoir un regard critique sur soi. Avant d'avoir un regard critique sur les autres. C'est ça qui est important. Et dans ce cas, mais il faut des fois se méfier des gens qui prennent des slogans féministes, mais qui, pour moi, ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas ce regard critique sur soi, parce que ça devient un peu trop facile d'être d'accord, par exemple, en principe, avec l'égalité des sexes. On peut dire, oui, on est tous d'accord. après, ils ne sont pas prêts à vraiment voir ce que ça veut dire concrètement. Donc, à vraiment changer les conditions qui permettent d'avoir une égalité de fait.